Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupeau. Le débat.
Bonjour et merci de votre fidélité. Bonjour à vous, Francis Laloupeau.
Bonjour Liliane, bonjour à nos auditrices et auditeurs et merci de leur fidélité. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. Et comme chaque semaine, Liliane, trois sujets au menu de cette émission. Premier sujet, la conclusion du sommet de Pau en France qui s'est tenu lundi dernier entre le président français et les dirigeants des pays du G5 Sahel.
Et pour améliorer la situation sécuritaire dans cette région régulièrement ciblée par des attaques terroristes, les chefs d'État ont décidé d'une série de mesures dont le renforcement de leur coopération militaire, la mise en place d'un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel appelé Coalition pour le Sahel et enfin de l'envoi de 220 soldats français de plus pour la force Barkhane. Ces mesures peuvent-elles réellement contribuer à diminuer la fréquence des attaques terroristes à défaut de les empêcher? Débat à suivre, Francis.
Un deuxième sujet, la crise en Libye qui fera l'objet d'un sommet à Berlin ce dimanche. Et la question est de savoir à quoi servira cette énième conférence internationale sur la Libye en plein chaos depuis près de 10 ans, Liliane.
Et est-ce que cela va changer la situation sur le terrain? Difficile de parier. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que toutes les grandes puissances occidentales et certains pays arabes alliés de l'un ou de l'autre camp opposé en Libye, évidemment, je parle de Haftar et de Sarraj, toutes les grandes puissances, disais-je, ont déjà annoncé qu'elles seront présentes ce dimanche à Berlin. Y vont-elles juste pour défendre leurs intérêts, comme l'affirment souvent les critiques, ou s'engager véritablement pour le retour de la paix dans une Libye effondrée? L'Afrique, dont les propositions de sortie de crise ont jusque-là été ignorées, a-t-elle encore un rôle à jouer pour le retour de la paix en Libye? Restez avec nous pour le débat.
Enfin, l'Afrique, dont la voix est souvent portée par les autres et qui réclame 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le continent sera-t-il entendu?
En tout cas, les ministres des Affaires étrangères de ce qu'on appelle le CEDIS entendaient le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Réunis lundi à Dakar, au Sénégal, ont lancé cet appel. Le président sénégalais estime qu'il s'agit, je cite, d'une urgence légitime. Ce que certains qualifient d'anomalie et d'autres d'injustice historique envers le continent pourra-t-il être réparé? Nous allons en débattre. D'abord, Francis, je vous cède le micro pour la présentation de notre plateau.
Et notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Niamey au Niger, Omar Tchiana, ancien ministre d'État du Niger. Omar Tchiana, monsieur le ministre d'État, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Dakar, Ousseynou Narguey, journaliste, analyste politique et fondateur du site d'information tract.sn. Ousseynou, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour Liliane et bonjour à votre invité. Bonne et heureuse année.
Bonne année. Merci à vous aussi. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité dans cette édition, Omar Tchiana, ingénieur de formation. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels dans votre pays, notamment ceux de ministre d'État chargé des mines et de l'industrie, ministre d'État chargé des transports également. Ancien président de groupe parlementaire, vous avez été vice-président du Conseil économique et social et aujourd'hui vous êtes le président du parti Amen Amine. Vous êtes le porte-parole du FRDD. Le front de l'opposition parlementaire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Omar Tchiana. Vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. À vous, Liliane, pour le premier sujet.
Oui, et le président français et ceux du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad ont annoncé des décisions à l'issue du sommet de Pau lundi en France. Et ces mesures sont censées permettre de retrouver la paix dans les pays du Sahel, confrontés quasi quotidiennement aux attaques terroristes, notamment dans ce qu'on appelle la région des trois frontières. Il s'agit du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Revenons sur ces décisions avec Nadir Djenad, l'envoyé spécial de BBC Africa Pau.
Les chefs d'État du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron veulent concentrer immédiatement leurs efforts militaires dans la région des trois frontières, malienne, nigérienne et burkinabé. Objectif, cibler en priorité l'organisation État islamique du Grand Sahara, le IGS, l'ennemi numéro un au Sahel, selon les chefs d'État présents à Pau. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Caboret.
Nous avons priorisé la nécessité de mener le combat contre l'IGS donc au niveau des trois frontières de façon prioritaire, fondamentale. Il nous faut des résultats probants rapides parce que nous jouons tous la crédibilité de chaque pays ici présent et la crédibilité de la coalition de façon générale
Les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel et ont plaidé pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. Le chef de l'État français Emmanuel Macron est revenu lors d'une conférence de presse sur le discours anti-français dans plusieurs pays du Sahel.
Les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda.
Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour les forces de l'opération Barkhane. Nadir Djenad, BBC Afrique, Pau.
Voilà, monsieur le ministre, on va revenir longuement sur les conclusions de ce sommet, mais déjà, est-ce que ces mesures prises à l'issue du sommet de Pau correspondent à ce que vous espériez de cette rencontre entre les présidents des pays du G5 Sahel et celui français?
Sincèrement, nous sommes restés sur notre faim. Aujourd'hui, rajouter 200 soldats supplémentaires, je ne pense pas que ça puisse permettre de résoudre un problème qui concerne plus de 5 millions de kilomètres carrés. Le véritable problème, c'est l'échec actuellement des gouvernements en place qui sont incapables d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur leur territoire. Et cela est lamentable. Aujourd'hui, les forces de renseignement qui doivent s'occuper des chargés de renseignement sur les questions terroristes ciblent plutôt les hommes politiques ou bien les gens de la société civile. À l'heure où je vous parle, actuellement, il y avait une manifestation qui devait se faire à 14h30 pour une marche pour supporter les forces armées nigériennes.
Ce vendredi.
Cette marche a été, une fois de plus, interdite. On se demande exactement que cherchent réellement les gouvernements en place. Moi, je trouve paradoxal que 60 ans après l'indépendance des pays africains, que nous devions encore faire appel à la puissance coloniale pour assurer notre sécurité.
Sous-traiter notre sécurité.
Ouais. Exactement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous vous rapprocher du téléphone? La technique me fait signe que vous êtes un peu éloigné, semble-t-il, du
bon
téléphone.
Bon.
Rapprochez-vous, s'il vous plaît, et poursuivez.
C'est bon. Donc, je disais, nous pensons que le premier investissement qu'ils doivent faire, qu'on en fait d'abord, c'est d'abord dans leur enseignement. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de chars de combat, ce n'est pas une question de roquettes, ce n'est pas une question d'avion. Les terroristes, qui chaque fois s'en prennent à nos militaires, n'ont pas tous ces moyens. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le renseignement humain parce qu'ils ont des complices un peu partout. Aujourd'hui, au lieu de mettre toutes les ressources des renseignements sur les hommes politiques, sur la société civile ou bien à des fins politiciennes, ils vont les concentrer sur la recherche de l'information. Vous savez, ces groupes terroristes, moi j'aime bien les appeler groupes terroristes, existaient depuis longtemps. Mais les autres régimes ont pu les contenir par le renseignement et également en faisant des projets de développement dans ces zones. Mais c'est l'échec de développement qui a été le terreau fertile pour l'avènement de ces groupes terroristes.
Cela étant, Omar Tchana, la menace actuelle, la menace terroriste est tout à fait inédite. Hein. Vous dites que ces groupes terroristes existaient autrefois. Là, nous avons affaire quand même à des formes nouvelles hein, de violence. Hein. Ces groupes djihadistes n'existaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ce n'est pas un phénomène qui concerne seulement le Sahel, c'est un phénomène mondial. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les dispositifs militaires qui sont mis en place, que ce soit au Niger ou dans l'ensemble des pays du Sahel, correspondent réellement justement à cette menace, je dirais, à l'ampleur de cette menace. Et pourquoi tous ces dispositifs ne parviennent pas à la faire reculer?
C'est ce que je disais tantôt.
Vous dites au-delà du renseignement, est-ce que les pays de cette zone étaient préparés à affronter ces menaces? Est-ce que les armées de ces pays ont été formées pour ce type de confrontation?
Oui, bien sûr. Vous savez, nos militaires sont des officiers formés dans les grandes écoles occidentales, françaises, américaines et ailleurs. Le problème qui s'est posé, c'est que certains régimes, quand ils sont advenus, quand ils ont pris le pouvoir, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de déstructurer l'armée dans le seul but d'éviter les États. Voilà le véritable problème. Aujourd'hui, la hiérarchie militaire est complètement désorganisée. Ceux qui doivent être chefs sont envoyés dans des ambassades. Parce qu'on craint les soldats valeureux, les officiers valeureux, on craint qu'ils finissent par faire un coup d'État. on a déstructuré les armées dans le seul but de les déstabiliser pour éviter les coups d'État. Mmh. Voilà le véritable problème auquel nous faisons.
Alors, ces chefs d'État au match, là, se sont déplacés pour aller à Pau, pour, d'une certaine manière, renouveler leur engagement avec leurs partenaires français et européens. Mais à leur retour dans leur pays, que disent-ils à leurs concitoyens? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, au lendemain du sommet de Pau, on a pu constater que les manifestations contre la présence militaire française se sont poursuivies, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et même au Niger. Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une crise de confiance entre les populations concernées et les gouvernants?
D'abord, moi, certains diraient qu'ils ont été convoqués à Kanosa. Mmh. D'autres diront qu'ils ont été invités à Pau. Aujourd'hui, on dit haut et fort que les présidents ont exprimé la position des populations. Mais si tant il est vrai que ceux qui sont contre la présence militaire dans ces pays africains sont minoritaires, pourquoi dans ce cas on ne les laisse pas manifester? Voilà le problème. Deuxièmement, pour répondre à votre question, aujourd'hui, chez nous, c'est le silence total. On ne sait pas exactement comment le gouvernement va s'y prendre pour mettre en place ces résolutions. Vous savez, je trouve également quelque chose de paradoxal. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons demandé un dialogue politique sous l'égide du président de la République. Aujourd'hui, on refuse ce dialogue, mais on veut résoudre la question terroriste en faisant appel à d'autres pays étrangers. C'est quand même paradoxal. On doit d'abord faire l'Union sacrée au Niger avant de demander l'appui de pays étrangers.
D'accord. Et pour vous, l'Union sacrée passe par un dialogue franc entre pouvoir et opposition. Mais je reviens un peu sur vos propos tenus à l'entame de la réponse à ma première question, monsieur le ministre Etiana. Vous dites que vous êtes resté sur votre faim. En somme, vous semblez dire que vous êtes complètement déçu par les décisions qui ont été prises à Pau. Et dans ce cas, est-ce que vous pensez que le fait de mettre en place une nouvelle coalition ou l'envoi de 220 soldats supplémentaires, est-ce que tout cela va ou pourrait peut-être changer, même de manière très faible, la situation sécuritaire sur le terrain? Bon, on l'a perdu, Francis.
Oui, on va se tourner vers Ousmane Nargueil, qui doit avoir beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ousmane Nargueil, la question que pose Liliane, au fait, c'est ça, c'est le fait d'associer désormais le G5 Sahel et Barkhane, est-ce que cela rend plus efficace la lutte contre le terrorisme?
Écoutez, je pense que déjà que les chefs d'État du G5 Sahel, des cinq pays sahéliens concernés, qu'ils se soient rendus à Pau, c'est-à-dire qu'ils soient allés à Kanosa, comme le dit le ministre d'État invité du Niger, je pense que c'est une victoire symbolique pour Emmanuel Macron, qui devait quand même légitimer aux yeux de son opinion publique l'engagement de la France au Sahel. Ça, c'est une première chose. Maintenant, est-ce que la conjonction des forces entre le G5 Sahel et Barkhane est-elle un gage de meilleur succès sur le terrain? Il est un peu prématuré pour le dire, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes là face à une guerre mondiale qui ne dit pas son nom, qui tire ses origines depuis l'attaque contre les deux tours du World Trade Center par Ben Laden avec l'islamisme terroriste, et même avant avec l'opération Restore Hope en Somalie. Je crois qu'effectivement, il y a une troisième guerre mondiale. Les forces terroristes qui sont dans les pays du Sahel ne se définissent pas comme des milices nationales ou locales. Ils visent à appartenir à des forces plus importantes et plus mondialisées que sont l'État islamique au Sahara.
Merci.
Donc, je pense que joindre les forces, mettre ensemble et dans le même panier la capacité et la force de frappe militaire est importante. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que le face-à-face mortifère finalement entre les États sahéliens et la France doit cesser. C'est une guerre dans laquelle la CDAO doit s'impliquer. Il est quand même assez étonnant que la France s'implique alors que des pays plus proches comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ne soient pas mêlés et impliqués dans ce G5 Sahel-là. Je pense aussi que les capacités de renseignement notamment et d'appui au renseignement des forces militaires occidentales sont importantes pour contenir ou même venir à bout de ces forces terroristes-là. Et ce que je veux dire, pour terminer, c'est que je ne fais pas dans le fétichisme du souverainisme. Je ne pense pas que c'est du néocolonialisme que dans une guerre qu'on peut qualifier de mondiale, le Sahel et l'Afrique fassent appel à des forces internationales.
Merci. On a retrouvé le ministre Omar Tiana. Alors, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez suivi ma question, mais elle portait sur votre déception. Vous l'avez dit, et que vous êtes resté un peu sur votre faim. Donc, est-ce que cela signifie que toutes ces mesures qui ont été annoncées, à savoir la coalition pour le Sahel, qui rassemblera les pays du G5, Sahel et les Français et les autres partenaires, est-ce que cela veut dire que le renforcement des troupes de Barkhane, les troupes françaises avec 220 soldats, tout cela, d'après vous, ne devrait pas permettre d'obtenir de meilleurs résultats sur le terrain ?
D'abord, moi, je ne pense pas réellement que plus ou moins 200 soldats va changer quelque chose dans ce combat. Nous devons d'abord faire confiance à nos armées. Nous devons leur donner les moyens de lutter contre ces groupes terroristes.
Ce qu'ils n'ont pas pour les armées, ce qu'elles n'ont pas pour le moment, d'après vous ?
Mais pas pour le moment. Je vous prends par exemple le cas du Niger. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui est actuellement en cours au Niger, où les chefs militaires ont dit qu'ils manquent de moyens. Ils manquent de moyens qui ne répondent pas à leur description technique ou qui viennent à retard. Non. Regardez, les deux attaques qu'il y a eu récemment au Niger, Inates et Shinakoder, comment est-ce que des groupes terroristes peuvent attaquer des positions militaires et dire que nous avons au Niger les grandes oreilles des Américains, des Français?
D'accord.
Est-ce qu'on n'a pas pu voir se déplacer 50%
moins? Voilà, on a déjà posé cette question plusieurs fois. Vous aussi, vous ne comprenez pas que voilà, cela puisse être possible. C'est vrai, vous avez également mentionné la faiblesse, d'après vous, des renseignements et aussi le fait que les hauts responsables compétents de l'armée, ce sont vos mots, ont été en quelque sorte décapités et envoyés loin de leur pays. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que les pays du G5 Sahel fassent de manière concrète et en quelques mots pour que la situation sur le terrain puisse s'améliorer?
D'abord, la première des choses, je pense qu'il faut donner des moyens matériels et opérationnels à nos armées. Deuxièmement, il faut que les officiers valeureux qui ont les capacités de gagner cette guerre, il faut qu'on les mette aux places qu'il faut. Et troisièmement, il faut que le renseignement, non seulement le renseignement militaire, le renseignement policier, soit consacré à cette guerre, pas à appliquer, excusez-moi le terme, les opposants ou les gens de la société civile.
Il y a eu des changements au niveau de la hiérarchie militaire chez vous au Niger, avec le limogeage notamment du chef d'état-major. Est-ce que vous pensez que cela pourrait peut-être apporter des résultats plus positifs et réduire la fréquence des attaques?
Alors, limogeage ou démission, je ne sais pas, hein, mais le général qui a été nommé est un général qui est connu pour ses compétences en la matière. Maintenant, c'est à l'heure qu'on voit le forgeron. On ne va pas trop se lever de se prononcer, mais on va attendre de voir ce qu'il va faire. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il réussisse. Aujourd'hui, c'est un drame. Jamais le Niger n'a connu ce que nous sommes en train de vivre. En un mois, on a perdu plus de 200 soldats. C'est lamentable, c'est des familles endeuillées et en plus qui ont été enterrées dans des circonstances effroyables. Vraiment, nous souhaitons, l'opposition nigérienne souhaite apporter sa pierre à cette lutte. Mais le gouvernement en place n'en veut pas. D'accord. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il donne les moyens à l'armée et aux forces de défense et de sécurité pour combattre les terroristes, pour que le massacre s'arrête.
Merci. Monsieur le ministre Francis, je pense que dans quelques instants, ce sera le moment dans...
C'est maintenant.
Voilà. Ce n'est maintenant d'ailleurs, ce n'est pas dans quelques instants. La pause obligatoire que nous allons observer et on revient pour le débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Niamey, Omar Tiana, ancien ministre d'État du Niger. Notre confrère invité au téléphone depuis Dakar, Ousseynou Narguey, journaliste, analyste politique, fondateur du site d'information tract.sn. J'avoue que je m'adresse à présent au Sénat gay parce que voilà, cette réunion de Pau hein, en France a été tenue pour, dit-on, clarifier la position des chefs d'État du G5 Sahel et notamment en ce qui concerne le sentiment anti-français que l'on voit se développer dans certains pays de cette région. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une difficulté pour ces chefs d'État du G5 Sahel à mener une lutte contre le terrorisme en symbiose avec notamment toutes les forces vives du pays, notamment l'opposition? Notre invité Omar Tiana parlait tout à l'heure d'un dialogue national, d'une union sacrée des Nigériens pour faire face à ce fléau. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile pour ces chefs d'État de mener cette lutte quand eux-mêmes souffrent d'une crise de légitimité, pour certains en tout cas dans leur pays?
Certainement, c'est le cas pour nombre d'entre eux. Maintenant, je dirais que le président français Emmanuel Macron n'a pas à prendre en otage et à mettre sur la sellette les présidents africains, sahéliens, pour ce que pense leur opinion publique. On n'indexe pas la France étatique et institutionnelle parce que le Front National y est représenté au second tour de la présidentielle. On ne le taxe pas pour autant d'État raciste. Donc je pense que ce qui s'est exprimé dans les opinions publiques sahéliennes est une libre expression et juste expression de ce que pensent les populations, c'est-à-dire que la France est présente dans le Sahel depuis maintenant un certain nombre d'années, 7 ans, 8 ans.
Et depuis les poissons Serval en 2013, je pense, au Mali.
C'est exactement ça, sinon depuis 2012, avec le président français François Hollande. Et je veux dire, si dans le seul Mali, la France n'arrive pas à faire en sorte que le Mali retrouve sa souveraineté sur la région de Kidal, ça veut dire que la France est là pour préserver un statu quo et non pas
pour régler la solution. Pour clarifier le propos, alors dites-nous, selon vous, pourquoi c'est la France qui est visée particulièrement, parce qu'il y a d'autres forces présentes dans le Sahel, il y a les États-Unis, il y a des forces européennes, il y a la MINUSMA, etc. Pourquoi c'est la France qui est visée par ces populations? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, je dirais, un contentieux particulier entre les populations et la France? Je pense notamment à la question de Kidal au Mali.
La question de Kidal est certainement le point nodal de cette désaffection-là contre la France, parce que il n'est pas normal que la France soit positionnée à Kidal et que l'État central malien ne puisse pas accéder à Kidal et à en reprendre le contrôle. Je dois rappeler que quand la France est arrivée au Mali, elle a été accueillie en sauveur. Donc si aujourd'hui la situation a changé, les Français n'ont qu'à prendre à eux-mêmes.
Donc, Oussène, vous pensez que c'est un mauvais procès que Macron fait aux Africains lorsqu'il dit que ce sentiment anti-français serve des intérêts des terroristes, et aussi il explique cela par l'intrusion des puissances étrangères qui veulent voir les Européens, dit-il, plus loin et qui auraient leur agenda?
Écoutez, le seul fait qu'il donne comme argument le fait qu'il est en compétition avec d'autres puissances laisse à penser que la France a un agenda caché qui n'a rien à voir avec la restauration de la paix et de la sécurité dans le Sahel. La France est là pour des visées impérialistes au sens d'empire pour lequel sont précarés et l'Afrique francophone subsaharienne et notamment le Sahel. C'est ce que Emmanuel Macron démontre. Il fait cette guerre-là pour la consommation intérieure française, de la même manière que François Hollande avait dit que le plus grand jour de sa vie, c'était quand les troupes françaises avaient stoppé l'avancée des terroristes
dans
vers
le nord du
Bamako.
Mali. Oui.
Donc quand même, c'était quand même assez scandaleux. Donc je pense que là, on a une succession de trois présidents français, Sarkozy qui a mis, excusez-moi du terme, le boxon dans le verrou qui était la Libye, François Hollande qui a renforcé, en tout cas entériné le statu quo en envoyant des forces qui n'ont pas mis en hors d'état de nuire les troupes terroristes. Et enfin Macron qui est là, qui a besoin d'une guerre, simplement parce qu'il est à la tête d'une puissance mondiale et qu'il doit affirmer son leadership mondial. Merci. Et en Afrique à travers une guerre.
Merci. Donc, beaucoup. Merci Oussenou. On va permettre à notre invité de réagir. Alors quand on écoute Oussenou Narguey, monsieur le ministre, est-ce que finalement on n'a pas l'impression que les décisions qui ont été prises à Pau sont un peu le fruit de la volonté française plutôt que des discussions entre le président français et ses homologues du G5 Sahel. Parce qu'on a l'impression, je pose aussi la question au regard du contexte même qui a conduit à ce sommet.
Oui, mais d'abord, je pense qu'il faut même voir comment s'est passée la convocation. La convocation et la tenue de la réunion a été décidée par le président Macron lors d'une interview. Et il avait dit qu'il allait les convoquer pour qu'ils viennent
clarifier leur position.
Clarifier qu'ils viennent s'expliquer. En tout cas, c'est pas le terme le plus approprié.
Du coup, pour vous, Pau, ça a été quoi ? Une réunion plus politique que réellement consacrée à l'amélioration de la situation sécuritaire dans le Sahel ?
Pour nous, Pau, c'est ce que je disais tantôt, certains diront qu'ils ont été convoqués à Kanosa, d'autres diront qu'ils sont allés. Ils ont été invités à Pau, c'était pour que les Africains aillent officiellement demander l'aide de la France. Parce que pensent-ils qu'avec cette déclaration, le sentiment anti-français va diminuer. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Récemment, il y a eu l'attaque de Sinangoder, et quelques jours après, les gens continuent de penser que ce sont les Français qui ont bombardé le camp. Voilà. Ce n'est pas, bien sûr que ce n'est pas vrai, mais c'est le sentiment général qui prévaut dans la plupart des les gens pensent que les terroristes nous attaquent parce qu'il y a les Français au Niger.
Oui, alors, justement, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Alors, le président Issoufou, vous êtes ministre du Niger, ancien ministre du Niger. Quand le président Issoufou vient à Pau, ensuite il rentre dans son pays, compte tenu de tout ce que nous disons depuis tout à l'heure, tout ce que vous nous dites aussi du climat général dans votre pays, que dit le président Issoufou à ses concitoyens ? Parce que c'est quand même à lui que ses concitoyens ont affaire avant toute chose.
C'est lui qui a été élu pour assurer la sécurité des Nigériens.
Voilà. Que dit-il à ses concitoyens pour justement clarifier la situation de ses choix, en tout cas quand il fait ses choix vis-à-vis de ses concitoyens en matière sécuritaire ?
Avant d'aller à Pau, il a fait un conseil des ministres au cours duquel, du moins, il a procédé au changement de la hiérarchie militaire. Nous attendons de voir quelles autres mesures il va prendre pour assurer la sécurité des...
Mais il prend des mesures sous la pression de la France ou il prend des mesures d'un point de vue purement souverain ?
Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais suivez mon regard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand on dit que pour assurer la sécurité d'un pays souverain, on doit faire appel à la puissance coloniale, je me dis qu'il y a un véritable problème.
Donc vous dites que les choix sécuritaires du président Issoufou sont dictés par la puissance française, c'est ce que vous dites ?
Sinon, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement.
Bon. Question rapide, avec une réponse rapide, Monsieur le ministre. Alors, la France a entrepris une mission diplomatique auprès des États-Unis pour les dissuader de quitter le Sahel, comme Washington l'envisage. Est-ce que vous vous inquiétez finalement pour l'avenir du Sahel, notamment en matière de renseignement, qui était, semble-t-il, assuré par les Américains ?
Ah oui, bien sûr. Il y a eu le partage. Il y a eu le poste, le commandant des opérations spéciales qui est basé à Ouaga, il y a le renseignement au Niger. Et évidemment que si jamais les Américains devaient quitter le Niger, ça va non seulement handicaper le Niger, mais ça va également handicaper les Français qui ont besoin des renseignements américains pour leurs interventions.
Merci beaucoup.
Donc vous demandez à ce que les Américains restent dans le Sahel, c'est ce que vous dites ?
Nous, on n'est pas... Nous sommes à l'opposition. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement en place prennent les mesures, d'abord avec les Nigériens, ensuite avec les Africains et d'autres personnes s'il le faut. Mais nous devons régler cette question d'abord au niveau du Niger, puis avec nos voisins américains, nos partenaires africains. Nous avons la CEDEAO. Aujourd'hui, aucun pays de la CEDEAO, à part ceux qui sont de l'Israël, ne sont impliqués dans cette guerre.
Merci.
Quand même, nous savons pourtant que la plupart d'entre eux ont des ressources et des capacités opérationnelles beaucoup plus développées que les nôtres. Peut-être moindre que celle de la France et des
plus
États-Unis.
Plus de solidarité ouest-africaine. Merci beaucoup.
Exactement.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Niamey, Omar Tchiana, ancien ministre d'État du Niger, et notre confrère invité, Ousseynou Narguey, depuis Dakar, journaliste et analyste politique, parlant à présent du sommet de Berlin, de la conférence internationale de Berlin sur la Libye, alors que l'intervention de la Turquie en Libye a provoqué une levée de boucliers ces derniers jours de la part de plusieurs pays, notamment occidentaux. Une conférence internationale sur la crise libyenne se tient donc ce dimanche 19 janvier à Berlin pour, dit-on, tenter d'amorcer un processus de paix dans le pays, quand on sait qu'aucune initiative significative n'a permis de mettre fin à la guerre civile qui oppose depuis avril 2019 les troupes du maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d'Union nationale de Tripoli. Que faut-il attendre de cette énième conférence nationale qui se déroulera sous l'égide des Nations Unies en présence des représentants d'une dizaine de pays de l'Union africaine et des deux protagonistes de la crise libyenne, à savoir le Premier ministre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Première question pour vous, Omar Tchiana. D'abord, comment vous expliquez que l'ingérence de la Turquie dans la crise libyenne ait provoqué ces jours-ci ce tollé de la part de pays qui sont eux-mêmes impliqués dans le dossier libyen sans apporter, on le sait, la moindre solution jusqu'à ce jour?
Vous savez, tout à l'heure, on venait de finir de parler de la guerre, de la guerre dans le Sahel. Ça, c'est d'abord la première conséquence de la chute du régime Kadhafi. En 2011, quand ils ont décidé, cette décision a été prise sans associer les pays voisins. Et aujourd'hui, c'est nous les premiers qui payons les conséquences. Aujourd'hui, il y a une conférence à Berlin sur la Libye où les pays concernés, les pays victimes des soldats perdus de la Libye ne sont pas invités. Et même la plupart des pays voisins, à part l'Algérie qui a forcé la porte avec l'aide de la Turquie, je crois, et puis de la Russie pour se faire admettre, aucun aide. Aujourd'hui, pour moi, ils viennent de faire une autre conférence à Moscou, apparemment, qui a échoué, et je pense également que la conférence de Berlin, c'est uniquement pour essayer que les pays membres du Conseil permanent se mettent d'accord pour leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, si on laisse cette question libyenne entre les Libyens, je suis sûr qu'on trouvera des solutions.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Le tollé provoqué par l'intervention de la Turquie, comment vous l'expliquez?
Parce que les gens ne comprennent pas. La Libye est un pays qui était d'abord sous influence italienne. Puis sont venus les Français avec le président Sarkozy. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment la Turquie et la Russie se retrouvent être les principaux protagonistes. La Russie d'un côté et puis la Turquie de l'autre. Ce sont des pays qui, par essence, ne sont pas. La Libye n'était pas un pays sous influence turque.
Est-ce que, Ousseynou, vous pensez que c'est un sommet de plus ou un sommet de la dernière chance? Et selon vous, quel est le vrai agenda des grandes puissances? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est pour réellement défendre la paix en Libye, ou c'est pour protéger leurs intérêts, alors même qu'on sait que chacune de ces puissances appuie un des deux camps opposés?
Le choix, en tout cas, de Berlin me laisse un sentiment partagé. Je pense que Berlin est un bon choix dans une certaine mesure, parce que dans un autre pays où il y a eu une guerre civile, qui est la Syrie, Berlin a été très généreux avec la chancelière Merkel, qui a accueilli 1 million de Syriens, il faut le rappeler, sur son territoire, même s'ils ne se sont pas toujours pour des raisons caritatives. Maintenant, Berlin, ça nous rappelle aussi le partage de l'Afrique en 1885 à la conférence de Berlin. Et moi, j'irai plus dans cette direction-là. Je pense que, hélas, ce qui plane sur la Libye, c'est un partage ou en tout cas une situation de statu quo pendant longtemps.
Donc pour vous, les grandes puissances, cette réunion, c'est l'occasion juste pour les grandes puissances de décider de qui va prendre quoi de la Libye,
de voir qui va prendre quoi dans un pays qui est un pays pétrolier, il faut le rappeler, et la Libye, on a beau être un peu angéliste en pensant que c'était le paradis sous Kadhafi, il faut rappeler que Kadhafi, le régime de Kadhafi était un état policier qui régnait sur une agrégation de tribus et non pas sur une nation. La nation libyenne n'existe pas et la situation actuelle nous prouve que Autant il y a eu un État libyen, autant il n'y a jamais eu de nation libyenne. Et aujourd'hui, effectivement, toutes ces nations-là essayent de voir qui va prendre quoi. Et le plus cocasse dans cette affaire-là, c'est quand même que la Turquie et la Russie soient en train de se tirailler, alors que dans d'autres contextes géopolitiques, la Russie est l'alliée de la Turquie. Je trouve cela quand même assez cocasse.
C'est compliqué, effectivement. Alors, on a beaucoup parlé de l'implication ou des réactions des pays occidentaux, des pays du Golfe, de la Russie, de la Turquie, mais comment vous expliquez ce qui ressemble à une marginalisation de l'Union africaine dans ce dossier qui devait quand même la concerner en premier lieu?
C'est d'abord parce que l'Union africaine s'est laissée marginaliser au moment où il fallait décider de la chute du régime de Kadhafi.
Oui, mais aujourd'hui.
Allô, j'entends pas. Allô.
Je vous parle de la situation actuelle, d'aujourd'hui, sans remonter évidemment à cette époque où certains pays quand même avaient voté pour, certains pays africains avaient voté pour l'intervention en Libye à l'époque. Mais ne revenons pas sur l'histoire. Parlons aujourd'hui de cette marginalisation croissante de l'Union africaine dans ce dossier libyen.
Vous savez, je vous ai dit tantôt que l'Algérie ne devait pas participer à la réunion de Berlin, mais finalement, quand l'Algérie a tapé du poing, l'Algérie a été conviée. L'Union africaine va participer également à cette rencontre, mais sans ses principaux atouts. Ses principaux atouts, ce sont les voisins de la Libye. C'est avec eux qu'elle aurait dû partir.
L'Algérie et la Tunisie, notamment.
Oui, mais et le Niger.
Oui, le Niger, évidemment.
Il y a quelques semaines, monsieur le ministre d'État, l'Union africaine avait fait une proposition au Conseil de sécurité de l'ONU pour reprendre en main le dossier libyen, et on lui avait signifié à l'époque une fin de non-recevoir. Donc l'Afrique a été mise de côté dans ce dossier libyen pour des agendas particuliers d'autres pays. Comment vous expliquez que les pays africains ne fassent pas plus de pression justement pour se porter au chevet de la Libye?
Vous savez, il y a quelques années, on avait désigné le président des Nations Unies, je pense bien qu'il va être...
Il y a toujours.
Pour suivre cette question. Où est-ce que nous en sommes? Depuis, à mon avis, c'est le statu quo. Les intérêts des pays occidentaux font que la question de la Libye n'avance pas. On veut faire de la Libye un autre Irak, ou on veut faire même pas sur le pétrole ou sur d'autres ressources. Tant que ces pays occidentaux ne laissons pas les Africains. Puis, avec les Libyens, résoudre ce problème, je vous assure, on ne trouvera jamais une solution. Regardez le cas de l'Irak, ça fait combien d'années que ça dure? Ce sont, en fait, des intérêts divergents d'un pays à l'autre qui se croisent. Tout à l'heure, M. Seni parlait de l'exemple de la Turquie et de
la Russie.
Qui s'affrontent en Libye, mais qui sont ensemble en Syrie. En Syrie. Donc, il y a quand même quelque chose de paradoxal. C'est pour dire, répéter cette fameuse phrase, les grandes puissances n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Eh bien, c'est à nous, les Africains, de le comprendre.
Merci. La Libye, en quelque sorte, en substance, ce que vous dites, c'est que la Libye est victime de ses ressources.
Exactement.
Monsieur Tiana, on a entendu le chef du Parlement libyen, Aguila Saleh, en visite au Caire, qui a affirmé que la validité de Sarraj est terminée légitimement et constitutionnellement. Il a remis en cause, en fait, les accords signés entre la Turquie et le gouvernement de Fayez el-Sarraj. Il a appelé à l'implication des pays arabes. Dans ce contexte, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la réunion de ce dimanche à Berlin aboutisse peut-être à la mise à l'écart actée officielle de Fayez al-Sarraj, el-Sarraj, pourtant reconnu par la communauté internationale?
Vous savez, ça fait depuis 9 mois maintenant que le général Haftar mène une offensive sur la Libye dans le seul but de les déloger. Maintenant que les derniers soutiens, même la base légale, le sujet sur lequel il est assis, n'est plus reconnu, il est évident que M. Sarraj, in fine, va partir, à moins que, à la conférence de Berlin, parce qu'on m'a dit que dans l'ordre du jeu, ils veulent parler de la démobilisation des troupes, de l'embargo que personne ne respecte, et également d'un régime transitoire ou d'un gouvernement d'une nation nationale. Peut-être que, sur cette base, on pourrait essayer de trouver...
Il pourrait sauver son fauteuil?
Mais ça m'étonnerait que le général Haftar, qui se bat depuis 8 ou 9 mois pour prendre Tripoli, accepte. Sinon, s'il accepte, je serais contradictoire de ce qu'il a fait les 8 derniers mois.
D'accord. Donc, on peut pas s'attendre à grande chose après ce sommet.
Moi, je pense que c'est un sommet de plus.
Un sommet de plus.
Un sommet de plus parce que les intérêts. Le but de ce sommet, c'est pour que les grandes puissances, les pays membres du Conseil permanent, les membres permanents du Conseil de sécurité, s'entendent sur les intérêts. Regardez, le Conseil de sécurité s'est réuni plus de 14 fois sur le dossier libyen. Et jamais il y a eu une décision. La seule décision du Conseil de sécurité qui a été appliquée manu militari, c'était la question de l'exclusion aérienne qui a permis l'assassinat du président Kadhafi.
Et toutes les autres résolutions n'ont pas été mises en œuvre. Mais est-ce qu'on peut quand même espérer qu'il y ait un sursaut avec maintenant la présence de l'Algérie qui va peut-être porter un autre ton ou un autre message, un message qu'on n'a pas encore entendu sur la Syrie, sur la Libye. Autrement dit, est-ce que vous pensez que la voix de l'Algérie peut aujourd'hui porter?
Nous sommes heureux en tant que pays voisin de l'Algérie, que l'Algérie participe. Mais nous aurions été plus heureux que le Niger également soit convié, tout comme les autres pays, les pays voisins de la Libye. Vous savez, quand un pays est en guerre, les premières victimes, ce sont ses voisins. Les autres qui se font la guerre par procuration, les autres pays qui se font la guerre par procuration
en
Libye, ils ne subissent pas les conséquences. Mais je vais également noter l'absence des autres pays qui font également la guerre par procuration en Turquie.
Au
pays du Golfe. Mmh. Ils ne sont pas conviés. Si tous les belligérants ne sont pas là, autour de cette même table, comment...
Il
n'y aura pas de solution.
Merci beaucoup.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec Omar Tchana, notre invité depuis Niamey, notre grand témoin, ancien ministre d'État du Niger, et notre confrère invité, Ousseynou Nar Gueye, journaliste et analyste politique. Dernier sujet avec vous, Liliane, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Afrique. Quelle place pour l'Afrique dans tout ça?
Oh oui, Francis, le débat sur la souveraineté, hein, vous voyez, n'est pas très loin. Puisque l'Afrique forte de ses 54 États peut-elle obtenir, si oui, à quelle échéance, la réparation de ce que Madame Sessouma Minata Samaté, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, a appelé une injustice historique? La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, demandée depuis des années par l'Afrique, a été confirmée cette semaine par des ministres des Affaires étrangères des pays africains à l'issue d'une réunion au Sénégal. Monsieur Tiama, l'Afrique ne demande pas moins que 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 autres non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous pensez que c'est une demande trop ambitieuse, irréaliste? Certaines parlent même de rêve. Quel est votre avis sur la question?
Moi, je pense qu'avant de parler d'abord de la présence, il faut d'abord expliquer l'absence. Pourquoi l'Afrique était absente à la création, n'est pas absente. Pourquoi l'Afrique est absente au Conseil de sécurité permanent?
C'était la colonisation à l'époque.
C'était la colonisation. Donc, et les États africains étaient sous le joug colonial. Et de ce fait, l'existence individuelle en tant qu'État, au sens juridique du terme, ne le permettait pas. Aujourd'hui, l'Afrique justifie sa présence, d'abord parce qu'ils sont 54 pays. Sur 193, et également parce que le nombre des défis et des enjeux liés à l'appel à la sécurité sur le continent sont nombreux. Mais est-ce que cela suffit réellement pour que les autres acceptent que l'Afrique ait 2 sièges permanents? Vous savez, il y avait au-delà, parce qu'en 1945, c'était les vainqueurs qui étaient les mêmes permanents. Mais au-delà de la guerre, il fallait remplir 5 critères. Il fallait d'abord être puissance géographique, il fallait être puissance démographique, il fallait être puissance diplomatique, il fallait être puissance militaire et puissance nucléaire. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique remplit ces conditions? Et également, l'Inde, qui aujourd'hui remplit ces 5 conditions, peut également demander à être membre permanent. Moi, je pense que c'est mon souhait en tant qu'Africain que bien sûr que l'Afrique soit au conseil permanent, mais je me demande, est-ce que réellement pour des raisons de capacité stratégique et d'influence diplomatique, est-ce que réellement les autres pays elles seront modifiées, ces dispositions, pour que l'Afrique ait un membre permanent, c'est pas demain la veille.
Oussène Ounargueï, alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'Union africaine s'engage dans cette revendication, mais une question s'est toujours posée, comment désigner sur 54 pays ceux qui vont représenter le continent au Conseil de sécurité, si jamais évidemment ces deux sièges étaient donc concédés, en tout cas étaient donc octroyés à l'Afrique. Et est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour résoudre cette équation, c'est-à-dire désigner les pays qui vont pouvoir siéger au nom de tout le continent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, sachant que l'intégration africaine est encore un combat, une lutte à parfaire, à achever?
Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'Afrique, c'est 54 pays et demi, ou même 55 pays avec le Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale.
Ce n'est pas un État.
Après, d'accord, mais bon, effectivement, les conditions ne sont pas réunies pour désigner un poste de siège permanent, de détenteur de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, parce que déjà, ce n'est pas une désignation collégiale par le continent, c'est une désignation consensuelle par l'ensemble de la planète. Mmh. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des pays qui sont prioritaires, parce que la candidature devrait être non pas continentale, mais c'est celle d'un pays. Je crois qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus vocation et...
Un expert, permettez-moi de vous interrompre, un expert interrogé par la BBC cette semaine parlait de l'Afrique du Sud et du Nigeria.
Exactement, il faudrait donc que l'Afrique du Sud et le Nigeria s'assument et demandent très clairement à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, sachant qu'un pays comme le Brésil ou comme l'Inde dont a parlé le ministre Tiana sont beaucoup plus légitimes quelque part.
Il y a 10 ans déjà, Oussène Ounargueï, c'était les deux pays qui étaient déjà cités à Addis Abeba à chaque fois qu'on parlait de cette affaire, mais il n'y a jamais eu de consensus, justement, il n'y a jamais eu de consensus continental sur cette question.
Mais il devrait y avoir un consensus, je veux dire, le Nigeria comme l'Afrique du Sud devrait pouvoir se passer de l'appui du reste du continent s'assumer comme grande puissance africaine. Et
puisque c'est le cas.
Des pays africains qui continuent de recevoir l'aide internationale pour boucler leur budget, une Union africaine qui ne peut boucler son budget que grâce à l'aide internationale, je pense que ça n'est pas très sérieux.
Merci.
Et finalement, il n'est pas interdit d'espérer pour réclamer, ni d'obtenir pour insister, mais je crois quand même que demander deux sièges de sécurité, deux sièges permanents au Conseil de sécurité, alors qu'il en existe cinq, c'est quand même quelque chose de finalement assez risible parce que c'est exagéré.
Merci, peut-être demander plus pour avoir peu. Monsieur le ministre, on va terminer peut-être avec vous, avec cette question. On a entendu le président sénégalais Macky Sall parlait d'une urgence légitime concernant cette requête de deux membres permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Quels actes politiques, une fois que cela est dit, quels actes politiques l'élite africaine et l'Union africaine doivent poser pour traduire cela en actes, pour traduire cette urgence légitime en actes?
Regardez, madame, on est même incapable de s'unir. On est venu récemment signer la ZLECAF au Niger en grande pompe. Et deux semaines après, le Niger a formé ses frontières avec le Niger et puis le
Bénin.
Bénin.
Et le Tchad.
Le Bénin. Et voilà. Quand on veut porter de telles réformes, il faut que nous soyons sérieux, nous les Africains. Tant qu'on ne sera pas unis, tant qu'on ne parlera pas le même langage, je vous assure, on n'obtiendra rien. Aujourd'hui, pourquoi l'Union européenne représente quelque chose face aux États-Unis, ne serait-ce que sur le plan économique? C'est parce qu'ils ont cette union.
Merci.
Aujourd'hui, n'est-ce pas?
Il faut accélérer l'unité pour pouvoir porter ces débats.
Exactement. Mm. Le jour où on sera unis, on représentera non seulement une puissance économique, mais une puissance démographique, diplomatique, peut-être pas nucléaire, mais en même temps.
Et politique. Merci beaucoup. On est venu d'écouter les messages de nos auditeurs sur Internet, sur notre page Facebook. Messages recueillis et livrés à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions recueillies sur la page Facebook de l'émission. Barkhane G5 Sahel, Aubin Alafame estime que cette fameuse coalition a montré ses limites sur le terrain où les populations souffrent constamment le martyr. Pour notre auditeur d'Abou Mekalavi au Bénin, le sommet de Pau n'a pas réussi à faire taire les critiques, surtout au Burkina et au Mali, des pays qui sont très touchés par le fléau du terrorisme. Libye, Charles Bazema estime qu'il est temps que les responsables du chaos libyen s'impliquent dans la recherche de la solution. Pour notre auditeur, il faudra donc faire appel à l'OTAN, à Sarkozy, à Cameron, mais aussi à Obama, pour qu'ils viennent trouver une solution à ce qu'ils ont créé. L'Afrique au Conseil de sécurité, Freddy Mbonda affirme que l'Afrique, avec ses 54 pays membres de l'ONU, ne restera pas à l'infini des téléspectateurs là où on prend les décisions qui engagent la vie du continent. Merci à Sarah Boko qui nous suit depuis Pau au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat-bbc-africa-radio et sur Twitter @débat-bbc-africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous également, Didier Lalisa.
Merci Flando. Didier.
Merci beaucoup. On va se tourner vers notre grand témoin Omar Tchiana pour une conclusion générale et peut-être inspirée des questions ou des interventions, des messages des auditeurs.
Allô?
Oui, oui, monsieur Tchiana, une conclusion générale avec la réponse à quelques auditeurs.
Oui, concernant le G5 Sahel et le sommet de Pau, bien sûr que les Africains sont perplexes hein, au vu des décisions qui ont été prises là-bas. Mais nous espérons, la paix n'a pas de prix, nous espérons que ça aidera à trouver au moins une partie de la solution. Maintenant, en ce qui concerne le sommet de Berlin.
Sur la Libye.
Moi, je regrette que les pays africains n'aient pas été associés à la résolution de ce problème, parce qu'avant tout, c'est nous qui suivons les premiers
victimes.
Nous sommes les premières victimes.
Pourquoi pas un sommet à Niamey? Ce serait bien. Mais dites-le au président Issoufou.
Pardon?
Dites-le au président Issoufou. Posez-le lui.
Ah ben, je pense qu'il écoutera, ou d'au moins il entendra votre position sur le. Il écoutera le débat. Maintenant, en ce qui concerne le.
Vous allez peut-être aider notre invité Francis à formuler la demande oui. adressée au président Issoufou.
Avec plaisir. Maintenant, en ce qui concerne la présence de l'Afrique au Conseil de sécurité, moi je pense que ça serait bien sûr une très bonne chose au vu des défis auxquels fait face notre continent, du développement, des défis sécuritaires. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas demain la veille. Nous devons avant de faire cette demande, parler d'une même voix. Et puis être mieux organisé que cela.
Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, Omar Tchiana, ancien ministre d'État du Niger. Merci d'avoir été notre invité, notre grand témoin dans cette édition. Merci à notre confrère Ousseynou Narguey, journaliste, analyste politique, fondateur du site d'information tract.sn. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière. Chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous Liliane.
Merci Francis et permettez-moi chers auditeurs de faire un compliment à Francis Laloupo. Oh. Très classe Francis dans votre costume gris 3 pièces. Oh. Vous ne le voyez pas hein, chers auditeurs, mais moi sur mon écran je vous vois monsieur Laloupo. Croyez-moi sur parole. À la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.
Au revoir.